Et c'est la revue de presse avec Virginie Pironeau. Bonjour Virginie.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Alors vous nous parlez d'un épisode méconnu qui a pourtant marqué l'histoire moderne des Indiens d'Amérique.
Passionnante série d'été cette semaine dans Le Monde sur les Indiens d'Amérique sous la plume de Corinne Laine. Aujourd'hui, quand les Indiens prennent le fort d'Alcatraz, l'aube n'est pas encore levée le 20 novembre 69 quand un chalutier se glisse dans la baie de San Francisco. Le courant est fort, la nuit noire. À bord, des étudiants représentant, disent-ils, toutes les tribus indiennes. Alcatraz, île prison où Al Capone notamment fut incarcéré et fermé depuis 62. Les autorités tergiversent sur le sort du rocher. Qu'en faire ? Peut-être un casino ? Mais les étudiants de Berkeley, la prestigieuse université toute proche, ont une autre idée, que le roc leur soit rendu au nom du traité de Fort Laramie datant de 1868. Et c'est le début d'une expérience inédite de revendication des droits des Amérindiens. Il faut dire qu'en 69, dans un pays déchiré par la guerre au Vietnam, l'époque s'y prête. Leur leader Richard Hawks s'adresse aux autorités dans un texte destiné au grand-père blanc et à son peuple. Solennellement, il propose un nouveau traité. Les Indiens offrent, dit-il, 24 dollars de verroterie et de tissu rouge en échange d'Alcatraz. Plus sérieusement, les étudiants entendent faire du lieu une université, un centre culturel. Les autorités imposent un blocus, mais très vite, l'opinion publique est conquise. Jane Fonda, Anthony Quinn, les célébrités accostent jusqu'à ce que ça dérape. À 13 ans, la fille du leader du mouvement meurt dans des circonstances troubles. Viennent ensuite des accusations de détournement d'argent du mouvement. Clochards, hippies, dealers viennent s'installer pour la nuit. En juin 71, après un incendie, la police intervient. Les Indiens, 500 au plus fort du mouvement, seront restés 19 mois dans la forteresse. Aujourd'hui encore, l'inscription « Indians Welcome », Indiens bienvenus, accueille toujours les touristes qui débarquent du ferry.
Virginie, un sentiment de révolte que n'aurait pas renié Toni Morrison.
Oui, vous avez pris le temps d'en parler, Pierre, avec vos invités ce matin. La romancière américaine, prix Nobel de littérature, s'est éteinte hier à l'âge de 88 ans. Les journaux ce matin lui rendent hommage. Silhouette imposante, port de tête altier, tout était en elle impérial et impérieux, écrit Josiane Savigno sur lemonde.fr. Beloved pour l'éternité, titre quant à lui Libération. Beloved, son roman le plus célèbre, prix Pulitzer, paru aux États-Unis en 87, et dans lequel une femme esclave égorge sa propre fille pour qu'elle échappe à son destin. Résistance toujours, cette fois en Suède, contre l'exploitation d'un métal rare, le vanadium, principalement employé pour la fabrication d'acier, utilisé aussi pour la conception de nouvelles générations de batteries hyper puissante. Anne-François Hiver, dans les colonnes du Monde, nous raconte l'histoire de Mats Persson, un agriculteur solide gaillard qui connaît la sécheresse, les contraintes financières et bureaucratiques qui s'accumulent. Et désormais, il doit également gérer la perspective de forage dans ses champs. Ça commence à faire beaucoup, dit-il, la voix tremblante. En quelques mois, une société britannique, Scandi Vanadium, a décroché 11 permis d'exploitation dans le sud-est de la Suède. Les terres d'une dizaine d'agriculteurs, dont celles de Mats Persson, sont concernées. La société le promet, les forages seront d'une propreté exemplaire. Et puis c'est pour la bonne cause, pour lutter contre le réchauffement climatique, il faudra stocker l'énergie produite à partir de sources renouvelables et le vanadium est la meilleure technique. Sauf que, sur place, l'argument ne tient pas. Il faut changer de logique et arrêter d'exploiter nos sols, dit une religieuse, mère supérieure qui a pris avec d'autres la tête de la fronde, car c'est exactement ce qui nous a mené dans la situation actuelle. Au-delà de ce projet d'extraction, Le Monde nous dit que ses opposants au forage se battent pour une révision de la loi suédoise jugée bien trop libérale. En gros, une fois qu'une société obtient un permis d'exploration, les propriétaires des terres ne peuvent plus rien faire.
Plus près de nous, dans le Puy-de-Dôme, des habitants mobilisés contre un dépôt sauvage de gravats.
À lire ce matin dans la montagne, la grogne des habitants de la commune de Romagna, au sud de Clermont-Ferrand. 6000 mètres cubes de gaines plastiques, fragments de carrelage, de briques, de ciment déposés sans autorisation sur un terrain privé. Des déchets qui proviennent de la démolition de l'ancien hôtel Dieu de Clermont-Ferrand. Un comble quand le nouveau site se veut vert et respectueux de l'environnement. Une mise en demeure a été assignée à Bouygues Immobilier pour procéder à l'analyse de ces déchets.
Eux aussi ont décidé de se mobiliser.
Vous les voyez souvent passer à vélo. Après une première soirée de grève samedi dernier, les livreurs de la plateforme de livraison de repas Deliveroo, à nouveau appelés à cesser le travail ce soir, conséquence d'une nouvelle grille tarifaire qui vient d'être mise en place par la multinationale britannique. Le tarif minimum pour une course a été supprimé. Certains livreurs expliquent toucher 2,70 euros pour une course qui auparavant en valait 4,50. Deliveroo, Amazon, Uber, nouveaux prolétaires, unissez-vous. vous, c'est la une de Libération ce matin. Deux doubles pages dans son édito. Alexandra Schwarzbrod parle du sous le prolétariat d'aujourd'hui, des armées de livreurs, souvent très jeunes, qui entendent bien s'organiser, je cite, pour peser sur des entreprises qui profitent de l'absence d'organisation syndicale dans des métiers qui n'existaient pas il y a 10 ans encore. Pour les Échos, le conflit chez Deliveroo fait désordre avant le vote définitif de la loi LOM, loi d'orientation sur les mobilités, en septembre. Le texte refuse de contraindre les plateformes en matière de rémunération et de conditions de travail. Le gouvernement table sur des chartes sociales mises en place de manière unilatérale.
Virginie, on prend le large avec un portrait qui fait du bien.
Oui, à lire dans l'équipe ce matin, très beau portrait de François Gabart, le roi des mers, où l'on lit que le skipper, aussi à l'aise en solitaire qu'en équipage, refuse d'embrasser le portrait de l'aventurier des temps modernes. Modeste, toujours, il déclare « Je crois en fait que les aventuriers sont partout. Tu peux connaître ce sentiment en créant une appli pour une start-up, en faisant des enfants ou en allant au fond des mers et au sommet des montagnes. Et pourquoi pas en faisant de la air guitare. » Allez Pierre, c'est pour vous. Vous ne me direz pas que vous ne vous êtes jamais rêvé en rockstar, ça arrive à beaucoup de monde. Vous savez, reproduisons des riffs de guitare avec un balai, une tringle à rideau devant le miroir de la salle de bain. Eh bien, la France a son champion. À lire en dernière page de West France ce matin, Lord Scrat, de son vrai nom Vincent Roussel, 27 ans, a raflé le titre national le week-end dernier à Mirande, dans le Gers. Cet animateur socioculturel de Saint-Brieuc est tombé dedans il y a 10 ans. Depuis, il compte 22 compétitions au compteur. Pour être un artiste, dit-il, il faut être un passionné de musique. Bon, jusque-là, on suit. Je ne joue jamais sur un seul morceau. Je fais toujours des medleys dans lesquels je mélange les genres. À côté, je bosse à fond mes chorégraphies. Je réalise mes propres costumes. Le tout sans savoir jouer de la guitare. Au fond, c'est peut-être là le secret. Et en ce moment, Lord Scrat se prépare pour les mondiaux d'air guitare. Ce sera le 23 août à Oulu, en Finlande. Pierre, vous devriez vraiment penser à vous inscrire.
Sans blague, c'était la revue de presse avec Virginie Pironon et bien sûr une guitare électrique, c'est magnifique, une Gibson, une Fender, on ne se lasse pas de les écouter et de les regarder dans les mains de Bruce Springsteen, d'Eric Clapton et d'autres.